Bonjour à tous, c'est avec un très grand plaisir que je reprends aujourd'hui le cycle des rencontres des bibliothèques de l'Odéon dans le cadre du partenariat entre le Théâtre de l'Odéon et le département de philosophie de l'École normale supérieure. Ce cycle sera consacré cette année aux violences de l'amour. Violence de l'amour, lorsque le nouveau directeur du Théâtre de l'Odéon m'a proposé de continuer ces rencontres, il m'a dit que ça serait bien que vous trouviez un programme, un cycle qui colle un peu à la programmation. C'était, je lui dis, très bien, dites-moi la programmation. Et puis j'avais 5 minutes pour trouver, comme ça, très vite, un cycle possible. Il y avait Don Juan, donc vous la connaissez. Hein, et j'ai dit, ah, les violences de l'amour. Il m'a dit, oui, banco, on le fait. Donc c'est fait, les violences de l'amour. Poursuivre au plus près la programmation au Théâtre de l'Odéon. 3 rencontres sont prévues, dont les intitulés sont déjà tout un programme. La séduction, aujourd'hui. La fidélité. Je n'ai pas dit l'infidélité. La fidélité. Bonjour. La fidélité en décembre. Et en mars, une séance dont je n'ai absolument aucune idée pour le moment de ce que je vais raconter, qui s'intitule Étouffement-dévoration.
Bon appétit.
Étouffement-dévoration. Peut-être l'amour maternel, peut-être. Enfin, on verra. Donc, avant de revenir sur le thème, je voudrais d'abord vous présenter mon invité. C'est un très grand plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui Vincent Delecroix, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Vincent est philosophe et romancier. Il fait partie de ces très rares personnes qui sont à la fois et philosophe et romancier. Il est directeur d'études dans la prestigieuse École des hautes études. École pratique des hautes études, dans la section des sciences religieuses. C'est à la fois aujourd'hui l'un des plus grands spécialistes au monde, je crois qu'on peut le dire, de la philosophie de Kierkegaard, l'un des plus reconnus au monde, et plus généralement, il est aujourd'hui une voix majeure dans le domaine si actuel, si sollicité, si complexe de la philosophie de la religion. Je citerai 2 livres à ce sujet, dont un que j'ai ici, il faut que je mette la main dessus, voilà. Deux de ses derniers ouvrages, une très grande somme, un livre magnifique sur la philosophie de la religion qui s'appelle « Ce n'est pas ici le pays de la vérité », une somme majeure de réflexion sur la philosophie de la religion, et puis un très beau livre qui vient de sortir là, ces jours-ci, qui s'appelle « Sur le théologico-politique », qui s'appelle « Apocalypse du politique », que voici aux éditions des Clés de Rouvert. Mais Vincent n'est pas seulement philosophe, il est également romancier, écrivain, et parmi ses nombreux livres, ses nombreux textes, j'en citerai 2 qui me tiennent le plus à cœur, Le tombeau d'Achille, publié chez Gallimard il y a quelques années, et La chaussure sur le toit, qui est le dernier roman en fait. Voilà. Donc je suis, particulièrement honoré que Vincent ait accepté mon invitation tout de suite, dès que je l'ai appelé, et je l'en remercie très chaleureusement. Et puis je voudrais évidemment remercier Stéphane qui est élève au cours Florent, qui se destine à une carrière d'acteur, qui jouera le mois prochain à la cartoucherie de Vincennes, au théâtre de l'Épée de Bois, dans une mise en scène de Tartuffe. Notre rencontre sera scandée par la lecture de textes. Nous allons entendre successivement des extraits des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, d'Adolphe de Benjamin Constant, et enfin, bien évidemment, du Journal du séducteur de Kierkegaard. Et donc, ce sont des textes difficiles à lire. Et je remercie particulièrement Stéphane d'avoir accepté de nous prêter sa voix. Et donc, nous allons d'entrée de jeu, avant même que j'introduise le thème, ou plutôt que Vincent l'introduise en rebondissant sur le texte, nous allons commencer par entendre un échange de lettres au tout début de Liaisons dangereuses, 2 lettres, l'une de Valmont et l'autre de la marquise de Merteuil, la réponse de la marquise de Merteuil. Donc Stéphane, c'est à toi.
La lettre du vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Ne vous fâchez pas et écoutez-moi, dépositaire de tous les secrets de mon cœur. Je vais vous confier le plus grand projet que j'ai jamais formé. Que me proposez-vous? De séduire une jeune fille qui n'a rien vu, ne connaît rien, qui pour ainsi dire me serait livrée sans défense, qu'un premier hommage ne manquera pas d'enivrer et que la curiosité mènera peut-être plus vite que l'amour? 20 autres peuvent y réussir comme moi. Il n'en est pas ainsi de l'entreprise qui m'occupe. Son succès m'assure autant de gloire que de plaisir. L'amour qui prépare ma couronne hésite lui-même entre le myrte et le laurier. Ou plutôt, il les réunira pour honorer mon triomphe. Vous-même, ma belle amie, vous serez saisie d'un saint respect et vous direz avec enthousiasme « Voilà l'homme selon mon cœur ». Vous connaissez la présidente de Tourvel, sa dévotion, son amour conjugal, ses principes austères. Voilà ce que j'attaque. Voilà l'ennemi digne de moi. Voilà le but où je prétends atteindre. Et si de l'obtenir je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. On peut citer de mauvais vers quand ils sont d'un grand poète. Vous saurez donc que le président est en Bourgogne, à la suite d'un grand procès. J'espère lui en faire perdre un plus important. Son inconsolable moitié doit passer ici tout le temps de cet affligeant veuvage. Une messe chaque jour, quelques visites aux pauvres du canton, des prières du matin et du soir, des promenades solitaires, de pieux entretiens avec ma vieille tante et quelquefois un triste whisky devaient être ses seules distractions. Je lui en prépare de plus efficaces. Mon bon ange m'a conduite ici pour son bonheur et pour le mien. Insensé. Je regrettais 24 heures que je sacrifiais à des égards d'usage. Combien on me punirait en me forçant de retourner à Paris. Heureusement, il faut être quatre pour jouer au whisk. Et comme il n'y a ici que le curé du lieu, mon éternelle tante m'a beaucoup pressé de lui sacrifier quelques jours. Vous devinez que j'ai consenti. Vous n'imaginez pas combien elle me cajole depuis ce moment, combien surtout elle est édifiée de me voir régulièrement à ses prières et à sa messe. Elle ne se doute pas de la divinité que j'y adore. Me voilà donc, depuis 4 jours, livré à une passion forte. Vous savez si je désire vivement, si je dévore les obstacles, mais ce que vous ignorez, c'est combien la solitude ajoute à l'ardeur du désir. Je n'ai plus qu'une idée, j'y pense le jour et j'y rêve la nuit. J'ai bien besoin d'avoir cette femme, pour me sauver du ridicule d'en être amoureux, car où ne mène pas un désir contrarié ? Ô délicieuse jouissance, je t'implore pour mon bonheur et surtout pour mon repos. Que nous sommes heureux que les femmes se défendent si mal, que nous serions auprès d'elles que de timides esclaves. J'ai, dans ce moment, un sentiment de reconnaissance pour les femmes faciles qui m'amène naturellement à vos pieds. Je m'y prosterne pour obtenir votre pardon et j'y finis cette trop longue lettre. Adieu, ma très belle amie, sans rancune. La réponse de la marquise de Merteuil au vicomte de Malmont. Vous ? Avoir la présidente de Tourvel ? Mais quel ridicule caprice ! Je reconnais bien là votre mauvaise tête qui ne sait désirer que ce qu'elle croit ne pas pouvoir obtenir. Qu'est-ce donc que cette femme ? Des traits réguliers, si vous voulez, mais nulle expression. Passablement faite, mais sans grâce. Toujours mise à faire rire avec ses paquets de fichus sur la gorge et son corps qui remonte au menton. Je vous le dis en ami, il ne vous faudrait pas 2 femmes comme celle-là pour vous faire perdre toute votre considération. Rappelez-vous donc de ce jour où elle quêtait à Saint-Roch et où vous me remerciâtes tant de vous avoir procuré ce spectacle. Je crois la voir encore, donnant la main à ce grand échalas en cheveux longs, prête à tomber à chaque pas, ayant toujours son panier de 4 aunes sur la tête de quelqu'un et rougissant à chaque révérence. Qui vous eût dit alors, vous désirerez cette femme ? Allons, vicomte, rougissez-vous-même et revenez à vous, je vous promets le secret. Et puis, voyez donc les désagréments qui vous attendent. Quel rival avez-vous à combattre ? Un mari ? Ne vous sentez-vous pas humilié à ce seul mot ? Quelle honte si vous échouez, et même combien peu de gloire dans le succès ! Je dis plus, n'en espérez aucun plaisir. En est-il avec les prudes ? J'entends celle de bonne foi. Réservée au sein même du plaisir, elle ne vous offre que des demi-jouissances. Cet entier abandon de soi-même, ce délire de la volupté où le plaisir s'épure par son excès, ces biens de l'amour ne sont pas connus d'elle. Je vous le prédis, dans la plus heureuse supposition, votre présidente croira avoir tout fait pour vous en vous traitant comme son mari. Et dans le tête-à-tête conjugal le plus tendre, on reste toujours 2. Ici, c'est bien pis encore. Votre prude est dévote et de cette dévotion de bonne femme qui condamne à une éternelle enfance. Peut-être surmonterez-vous cet obstacle, mais ne vous flattez pas de le détruire. Vainqueur de l'amour de Dieu, vous ne le serez pas de la peur du diable. Et quand, tenant votre maîtresse dans vos bras, vous sentirez palpiter son cœur, ce sera de crainte et non d'amour. Peut-être si vous eussiez connu cette femme plus tôt, en eussiez-vous pu faire quelque chose, mais cela à 22 ans. et il y a près de 2 ans qu'elle est mariée. Croyez-moi, vicomte, quand une femme s'est encroûtée à ce point, il faut l'abandonner à son sort. Ce ne sera jamais qu'une espèce.
Bien, merci beaucoup Stéphane. Merci. Alors, c'était... Pour cette entrée en matière, c'est Vincent qui l'a choisi. Il m'a dit, ah, moi, je veux commencer absolument la séance avec deux lettres des liaisons dangereuses et avec cette idée qu'ils mettent en évidence la pratique séductrice comme un art de la guerre. Donc, peut-être qu'on pourrait repartir de là. Donc, Vincent,
ouais, oui,
si comme... tu veux nous dire.
Oui, bon, c'est effectivement, c'est un cliché, l'art de la guerre pour la conquête amoureuse. Ça ne date pas de Chauvirlot de Laclos, loin de là. Mais ce qui est intéressant dans le texte, on ne va pas faire un commentaire de texte, il faut simplement en jouir, c'est vraiment le cas de le dire, parce que c'est surtout la fin. En fait, ça pourrait servir pour la prochaine séance sur la fidélité, la lettre de Merteuil, je vais me rendre compte, ce serait intéressant. Mais il y a deux, trois choses qui, moi, m'ont paru très important à faire entendre en guise d'introduction, c'est justement le fait que ça complique un peu le cliché habituel de la séduction ou de la conquête amoureuse, c'est justement pas la même chose. Comme un art de la guerre, comme vous le savez peut-être, Chauvirlot de Laclos était lui-même assez versé dans l'art de la guerre, c'était un militaire. Et il était à l'époque où, enfin au moment où il écrivait les liaisons dangereuses, il était au chômage ou presque comme ça, donc il s'ennuyait. Et donc il reporte évidemment tout son talent et sa connaissance de l'art de la guerre dans ce roman qui est absolument extraordinaire. Je songe à l'instant qu'un siècle plus tôt, Descartes lui-même au chômage de l'armée écrit les méditations métaphysiques. En fait, ça, on n'a pas exactement les mêmes... voilà, les philosophes d'un côté, puis les romanciers de l'autre.
C'est pas le même plaisir de lecture. Hein.
Non, pas tout à fait pareil. Mais alors... Il y a deux, trois choses quand même qui sont en dehors de l'esprit incroyable qui pénètre ces échanges. Pas simplement la cruauté et le cynisme, évidemment, qui caractérise ce qu'on peut imaginer vraiment en termes de pensée commune concernant la séduction, c'est-à-dire que, bon, voilà, on se donne un objectif plutôt noble, parce que justement, une fille facile, ça n'apporte aucune gloire. Il s'agit d'un jeu, bien évidemment, et que l'enjeu est symbolique. Il n'est pas simplement de... Enfin, c'est justement ça le problème, c'est qu'il est à la fois symbolique et charnel. C'est qu'on y discute à la fois de la difficulté de l'entreprise et du plaisir qu'il nous réserve. C'est ça la séduction, à dire vrai. C'est le caractère, enfin j'en sais rien, je n'ai pas de définition à donner, mais c'est le caractère en tout cas indissociable entre la difficulté de l'entreprise et le plaisir, c'est-à-dire tout simplement le fait que le désir est plus ou moins aiguisé. Mais ce qui est très important, je ne vais pas tenir la parole trop longtemps parce que j'ai cru comprendre.
Non, vas-y, je t'en prie, quand j'aurai envie de t'interrompre, je t'interromperai.
D'accord. Enfin, tu peux toujours essayer de le faire.
Je peux essayer.
mais non, ce qui est très important, me semble-t-il, c'est justement, dès le départ, l'espèce d'ambiguïté qu'il y a dans l'entreprise qu'il se donne. C'est-à-dire que si le plaisir était le seul gain de la séduction, c'est-à-dire le plaisir charnel possédé, effectivement, Cécile de Volanges, à laquelle il fait allusion au début de lettre, parce que... peut-être que j'aurais dû donner un peu l'idée de l'intrigue. Si vous voulez, juste avant, la Merteuil dit à Valmont, voilà, séduisez la petite Volange, qui est la fille d'une de mes pires ennemies, séduisez-la, déshonorez-la, et je vous promets que moi-même, je céderai à vos avances. Bon, elle y a déjà cédé, hein, à dire vrai, mais bon, bref. Donc, pour prix de moi-même, séduisez Volanges, détruisez-la et détruisez la mère par la même occasion, j'en aurai double plaisir. Et lui répond donc, mais non, la petite Volanges, c'est trop facile, il suffit de faire ça, j'en aurai aucun mérite, c'est une jeune fille qui connaît rien à rien, j'en aurai même pas l'amour à dire avoir un tout petit peu de plaisir. Non, moi je vous propose un défi beaucoup plus important. Et pourquoi est-il beaucoup plus important ? D'abord parce que, évidemment, c'est une fille, ça n'est pas une fille, mais c'est une femme mariée et dévote, donc c'est un peu plus difficile.
C'est un peu la difficulté.
Ouais, enfin, il paraît. C'est discutable d'ailleurs, c'est très discutable. C'est d'ailleurs ce qu'elle dit. Mais bon, le défi est plus le défi est plus important, mais surtout, ce qu'on comprend dans la lettre, et qui va être fatal à Valmont, à dire vrai. Ce qu'on comprend dans la lettre, c'est qu'il se mêle de manière là aussi indissociable le fait d'être amoureux à la séduction. Autrement dit, et c'est ça qui est très... C'est la première chose qui est assez intéressante, c'est le fait qu'on ne séduit vraiment que quand on est déjà un peu séduit ou amoureux, il le dit lui-même. Ça me consolera du ridicule d'en être amoureux. Alors bien sûr, il ne faut pas prendre au sens romantique, ce serait anachronique, le fait d'être amoureux, ça signifie la dévorer. Pardon, ça c'est la troisième séance. Ça signifie la désirer, ça c'est sûr. Mais il y parle de passion, il y parle de désir, il y parle d'être amoureux lui-même, pas concernant sa victime, mais lui-même. Ce qui prouve bien que le jeu de la séduction ne relève jamais d'un caractère parfaitement froid et cynique. Valmont, il ne peut séduire que parce qu'il aime, en réalité. Et il ne pourra le faire. Alors, évidemment, et c'est la première chose que entend la Merteuil dans sa lettre, bien sûr. Elle devrait être, évidemment, séduite par le caractère, j'allais dire, chevaleresque, les vertus héroïques qu'il prétend manifester en disant « Non, il me faut un objet à ma hauteur, quelque chose de noble, quelque chose de difficile. » Mais en fait, ce qu'elle entend, Merteuil, c'est la vérité, c'est qu'il est amoureux, en réalité. C'est qu'il est amoureux et qu'il y entre une part indéfinissable de sincérité amoureuse et de calcul cynique et, vous en jugerez, hein, ignoble ou pas. Ça, c'est la première chose et qu'on va voir dans les extraits suivants aussi sur lesquels on s'apesantira, comme je le fais à l'instant. Ça, c'est la première chose, mais c'est très important. C'est que si c'est, et ça nous mène à la deuxième, à mon avis, c'est que si c'est un art de la guerre, si on parle des violences de l'amour, ces violences sont évidemment inégalement réparties, mais elles ne sont pas totalement polarisées sur un seul objet, pour deux raisons. D'abord parce que la séduction, ça n'est justement pas le viol. On y reviendra sans doute, c'est ce qui différencie le séducteur de Don Juan, par exemple, lequel est prêt à tous les expédients, y compris le viol. Bref, chose qui répugne évidemment au séducteur professionnel qu'est ou que serait Valmont. Donc si c'est un genre de violence, c'est un genre particulier de violence. C'est une violence indirecte. Et c'est une violence indirecte qui n'est efficace que si cette violence s'exerce aussi sur celui qui l'exerce. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que si c'est un art de la guerre, c'est pas un art, c'est un art stratégique plus que tactique. C'est un art certes compliqué, lent et mais très complexe. Et toutes les lettres qui composent les liaisons dangereuses sont là pour en témoigner. Il y a des revers, il y a des défaites temporaires, etc. Mais c'est surtout un art de la force indirecte. Et ça, c'est la deuxième chose qui est très très important, me semble-t-il, ici. C'est qu'on n'use jamais directement de sa force. Sinon, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. L'idée, juste termine ma phrase.
Je t'en prie.
L'idée, c'est que ça ne peut marcher que si vous usez de la force de l'autre contre lui-même. Ça, c'est la séduction. Ça, c'est la différence qu'il y a entre la conquête et la pure conquête, qui veut n'importe quel moyen, n'importe quel expédient, et la séduction elle-même. C'est-à-dire, ce que vous visez, ça n'est pas tellement la victime, l'objet lui-même, mais c'est sa volonté. Ce que vous visez, c'est son désir et sa volonté. Ce que vous voulez, c'est qu'il soit ou qu'elle soit amoureux, ou du moins qu'elle vous désire. Mais mieux que ça encore. Donc ce que vous voulez, c'est pas elle ou lui, mais son désir. Et ça change beaucoup de choses dans l'art de la guerre, de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est lui qui, en définitive, va se rendre volontairement. D'accord ? Et qu'on ne réduira pas. Bon, bien sûr, il y va de la ruse, mais ça, c'est une première chose qui est très... Enfin bon, ça doit être même la troisième. Et j'avais promis que je terminerais la phrase. La phrase se termine de la manière suivante. Non seulement ce qu'il faut dans ce cas-là, c'est user de la force de l'autre, mais il faut faire en sorte que l'autre soit dans l'illusion qu'il est guidé par sa propre volonté, ou en tout cas guidé par quelque chose de lui-même dans sa volonté.
Mais alors là, justement, parce que ce que nous venons de dire, c'est un échange de lettres.
Oui.
Et si nous avons voulu lire aussi, toi et moi, la réponse de Madame de Merteuil, de la marquise de Merteuil à Valmont, c'est que ce qu'il y a d'admirable, dans le fond, la question se pose de savoir qui manipule qui.
Ben bien sûr.
C'est-à-dire qui manipule qui. C'est-à-dire que le séducteur n'est peut-être pas en réalité celui qui est en position de force
et que le séducteur ici est peut-être lui-même manipulé par celle qui tient toutes les ficelles en réalité.
Bien sûr.
Et qui est la marquise de Merteuil. Donc comme je sais que tu vas répondre pendant très longtemps à cette question-là, je te pose celle d'après tout de suite, parce que j'avais trois questions pour mais réponds déjà à celle-là. La question sur la manipulation.
Oui, la manipulation. Oui, alors bien sûr que c'est la Merteuil. Bien sûr que c'est la Merteuil qui est la grande marionnettiste de cette affaire. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez à l'instant, la fin de la lettre de Valmont, elle est quasiment prophétique. Outre qu'il termine sur une goujaterie absolument abominable, j'ai dans ce moment un sentiment de reconnaissance pour les femmes faciles qui m'amène naturellement à vos pieds. Okay. Extrêmement, c'est très très galant comme tournure, et il termine prophétiquement: adieu ma très belle amie, sans rancune. Il faut vraiment être d'une naïveté incroyable,
parce que
tout est une histoire de rancune, bien sûr, parce que Merteuil est beaucoup plus intelligente que Valmont de ce point de vue là en tout cas en matière de séduction, en matière de sentiments, et elle comprend ce que je disais tout à l'heure, elle comprend qu'en réalité Valmont déguise sous les apparats de la séduction et des valeurs cyniques de la conquête un sentiment effectivement amoureux qui excite évidemment la jalousie de la Merteuil et qui produira la catastrophe finale. Donc c'est elle la manipulatrice, bien évidemment. Autrement dit, c'est elle qui séduit le séducteur et c'est elle qui le manipule. Elle en paiera un certain nombre de conséquences également, mais c'est elle qui le manipule. Mais ce qui est aussi intéressant, sans vouloir anticiper, parce que tu avais une troisième question. Enfin bon, je vais arrêter. Voilà.
Non, ma troisième question est d'ordre beaucoup plus général, puisque nous allons quand même suivre quelques scansions historiques. Donc dans un moment, on va lire des extraits de Adolphe et donc passer à un autre temps, un autre moment, c'est-à-dire la question du romantisme et séduction, et donc nous inscrire dans une toute autre configuration et sans doute un autre portrait du séducteur. Et quand on pense au XVIIIe siècle, on pense évidemment aussitôt à la littérature libertine. Et la question que je voulais te poser, c'est s'il y a, dans le XVIIIe siècle, une figure spéciale du séducteur, et comment tu analyserais ce qui différencie le libertin du séducteur.
Alors, il y a des choses, il en reste des traces là. Je ne sais pas si Valmont représente, il est devenu quasiment un mythe qu'on ne doit évidemment pas confondre avec Don Juan. Ce n'est pas du tout Don Juan. Ça n'est pas Casanova non plus.
Ça, on va y revenir à la fin. On va finir par la figure de Don Juan tout à l'heure.
Oui, absolument. Donc ça n'est pas du tout Don Juan, ne serait-ce que parce qu'il y a on l'a reproché assez souvent à Laclos, il y a une espèce de mécanique froide de la guerre de position. Qui fait qu'il il parle de passion, effectivement, et comme je le disais tout à l'heure, il a besoin de l'aliment de la passion, parce que ça fait partie, c'est au même titre que la poudre pour les canons ou les chevaux pour la cavalcade, mais ce dégrisement de la séduction amoureuse est déjà en lui-même caractéristique de ce moment-là de la séduction. La deuxième chose, et qui frappe dans cet extrait évidemment, c'est la conversion des valeurs chevaleresques et romanesques, c'est-à-dire des valeurs guerrières, à un objet futile. Enfin, futile, les femmes, c'est pas futile, mais la conquête elle-même. C'est-à-dire
que le public est très très féminin.
Oui, c'est ce que je remarquais au moment même où je le disais.
Moi, je serais très, je serais un
peu... Non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas ça. C'est, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes.
Ça se termine mal quand même. Ouais,
c'est pas ça. C'est que qu'est-ce que c'est que ces aristocrates qui s'ennuient à la campagne, soit dit en passant. Mais qu'est-ce que c'est que ces aristocrates au moment où Choderlos de Laclos écrit lui-même en vacances, c'est-à-dire sans pouvoir exercer ces valeurs de la noblesse, ces valeurs ancestrales de la noblesse, qui est le combat singulier en l'occurrence, et un certain nombre de valeurs chevaleresques. Vous replacez cette lettre-là, la lettre de Valmont, vous la mettez un siècle en arrière, avec des vertus, je ne sais pas moi, cornéliennes par exemple, du héros cornélien, hein, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. C'est évidemment ce que vous entendez dans l'argumentation de Valmont. Sauf que là, vous vous dites quoi ? À vaincre sans péril, mais à vaincre quoi ? Des femmes. Non, enfin, je veux dire, des corps, à posséder des corps. Voilà. Il ne s'agit plus de faire la guerre, il ne s'agit plus d'être en duel héroïque, il s'agit tout simplement de
Oui, de jouer. C'est même plus la guerre en dentelle. Ça signifie aussi une certaine oisiveté de cette société aristocratique qui n'a plus d'autre lieu pour exercer ces valeurs qui l'ont construite que le lieu de la séduction. Voilà.
Très bien. On va. Je contrôle un peu le temps parce qu'il y a beaucoup de lectures. Donc on va te laisser le temps de reprendre ta respiration. Ça me semble assez utile. Et Stéphane, nous allons passer aux extraits donc de Adolphe, de Benjamin Constant. Et peut-être, Vincent, après, dès que Stéphane aura terminé, tu pourras rappeler, parce que tout le monde est en tête, se souvienne de Benjamin Constant et d'Adolphe, tu pourras peut-être rappeler un tout petit peu l'intrigue. Et puis j'ai quelques questions à nouveau à te poser, quelques échanges que je voudrais avoir avec toi à ce sujet. Donc c'était compliqué de choisir au début de Adolphe Vincent est arrivé, il m'a dit tu sais c'est pas possible, je viens de relire Adolphe, j'ai envie qu'on lise tout. Je dis mais j'ai pas le temps pour te faire lire un roman de quelques, c'est pas très long Adolphe mais quand même. Donc nous allons lire 5 extraits tirés du début de Adolphe, ils sont quand même empruntés aux premières pages du roman que Stéphane va nous lire en les numérotant de 1 à 5, hein, c'est ça? Donc Stéphane, c'est à toi.
Donc le premier extrait. Un jeune homme avec lequel j'étais assez lié cherchait depuis quelques mois à plaire à l'une des femmes les moins insipides de la société dans laquelle nous vivons. J'étais le confident très désintéressé de son entreprise. Après de longs efforts, il parvint à se faire aimer. Et comme il ne m'avait point caché ses revers et ses peines, il se crut obligé de me communiquer ses succès. Rien n'égalait ses transports et l'excès de sa joie. Le spectacle d'un tel bonheur me fit regretter de n'en avoir pas essayé encore. Je n'avais point eu jusqu'alors de liaison de femme qui pût flatter mon amour-propre. Un nouvel avenir parut se dévoiler à mes yeux. Un nouveau besoin se fit sentir au fond de mon cœur. Il y avait dans ce besoin beaucoup de vanité sans doute. Mais il n'y avait pas uniquement de la vanité, il y en avait peut-être moins que je ne le croyais moi-même. Les sentiments de l'homme sont confus et mélangés. Ils se composent d'une multitude d'impressions variées qui échappent à l'observation. Et la parole toujours trop grossière et trop générale peut bien servir à les désigner, mais ne sert jamais à les définir. Deuxième extrait. Tourmenté d'une émotion vague, je veux être aimé, me disais-je. Et je regardais autour de moi. Je ne voyais personne qui m'inspirât de l'amour. Personne qui me parut susceptible d'en prendre. J'interrogeais mon cœur et mes goûts. Je ne me sentais aucun mouvement de préférence. Je m'agitais ainsi intérieurement lorsque je fis connaissance avec le comte de P, homme de 40 ans dont la famille était alliée à la mienne. Il me proposa de venir le voir. Malheureuse visite. Il avait chez lui sa maîtresse, une Polonaise, célèbre par sa beauté, quoiqu'elle ne fût plus de la dernière jeunesse. Troisième extrait. Offerte à mes regards dans un moment où mon cœur avait besoin d'amour, ma vanité de succès, Elénore me parut une conquête digne de moi. Elle-même trouva du plaisir dans la société d'un homme différent de ceux qu'elle avait vus jusqu'alors. Son cercle s'était composé de quelques amis ou parents de son amant et de leur femme que l'ascendant du comte de P avait forcé à recevoir sa maîtresse. Les maris étaient dépourvus de sentiments aussi bien que d'idées. Les femmes ne différaient de leur mari que par une médiocrité plus inquiète et plus agitée parce qu'elles n'avaient pas, comme eux, cette tranquillité d'esprit qui résulte de l'occupation et de la régularité des affaires. Une plaisanterie plus légère, une conversation plus variée, un mélange particulier de mélancolie et de gaieté, de découragement et d'intérêt, d'enthousiasme et d'ironie, étonnèrent et attachèrent Elénore. Quatrième extrait. Je pensais faire, en observateur froid et impartial, le tour de son caractère et de son esprit. Mais chaque mot qu'elle disait me semblait revêtu d'une grâce inexplicable. Le dessein de lui plaire, mettant dans ma vie un nouvel intérêt, animait mon existence d'une manière inusitée. Je m'attribuais à son charme cet effet presque magique. J'en aurais joui plus complètement encore sans l'engagement que j'avais pris envers mon amour-propre. Cet amour-propre était entière entre Éléonore et moi. Je me croyais comme obligé de marcher au plus vite vers le but que je m'étais proposé. Je ne me livrais donc pas sans réserve à mes impressions. Il me tardait d'avoir parlé car il me semblait que je n'avais qu'à parler pour réussir. Je ne croyais point aimer Éléonore, mais déjà je n'aurais pu me résigner à ne pas lui plaire. Elle m'occupait sans cesse. Je formais 1000 projets, j'inventais 1000 moyens de conquête, avec cette fatuité sans expérience qui se croit sûre parce qu'elle n'a rien essayé. Cependant, une invincible timidité m'arrêtait. Tous mes discours expiraient sur mes lèvres ou se terminaient tout autrement que je ne l'avais projeté. Je me débattais intérieurement, j'étais indigné contre moi-même. 5e extrait. Convaincu par ces expériences réitérées que je n'aurais jamais le courage de parler à Éléonore, je me déterminais à lui écrire. Le comte de P était absent. Les combats que j'avais livrés longtemps à mon propre caractère, l'impatience que j'éprouvais de n'avoir pu le surmonter, mon incertitude sur le succès de ma tentative, jetèrent dans ma lettre une agitation qui ressemblait fort à de l'amour. Échauffé d'ailleurs que j'étais par mon propre style, je ressentais, en finissant d'écrire, un peu de la passion que j'avais cherché à exprimer avec toute la force possible.
Bien, merci. Merci beaucoup Stéphane de cette magnifique lecture de Adolphe. Alors Vincent, lorsqu'on a discuté il y a quelques jours ensemble et construit un peu le scénario de cette séance, je me souviens très bien, tu m'as dit dans le fond ce que révèle Adolphe de la séduction, c'est qu'elle est une guerre où tout le monde perd.
Oui.
Ah ben, tu l'as dit.
Oui,
maintenant, il faut assumer.
Non, mais j'essaie de faire des réponses courtes.
Non, vas-y. Ah non, là, maintenant, tu peux t'installer dans le temps.
Alors, vous aurez quand même noté la différence de ton, vraiment, par rapport à au texte précédent. Si vous l'assimilez, si vous le considérez comme un texte sur la séduction, ce que je vous invite à faire, en quelques années, il y a un changement de siècle entre Laclos et Benjamin Constant. Tout a changé de ce point de vue-là. Tout a changé et c'est spectaculaire. Ce qui est caractéristique, on est dans le romantisme avec Constant, vous l'aurez compris. Ah oui, si, il fallait répondre à ta question. Si, oui, tout le monde perd, parce qu'à la fin, pour vous résumer un tout petit peu l'intrigue.
C'est intéressant de te faire
raconter. Voilà, pardon. Pour vous raconter un tout petit peu l'intrigue, si vous ne l'avez pas lu. Et si vous ne l'avez pas lu, quelle chance, parce que vous allez pouvoir le lire. C'est un roman extraordinaire. C'est vraiment c'est un des plus beaux romans que je connaisse, mais un des plus durs et des plus cruels aussi. C'est d'une incroyable modernité, d'ailleurs. C'est justement ce jeune homme. On soupçonne que ce roman soit en partie autobiographique, ce qui a très mal pris Madame de Staël. D'ailleurs, Benjamin Constant était plus ou moins l'amant, plutôt plus que moi, à dire vrai, laquelle n'était pas de toute première jeunesse, comme il le dit lui-même aussi, de façon très très élégante dans ce texte. Bref, Adolphe raconte comment Adolphe séduit Éléonore tout simplement parce qu'il s'ennuie.
Voilà, c'est ce thème-là de l'ennui.
C'est ce qui change. Valmont, il ne séduit pas la présidente de Tourvel parce qu'il s'ennuie à la campagne. Ça tombe bien qu'il soit à la campagne et qu'il s'ennuie, mais il séduit la présidente de Tourvel parce qu'elle échauffe ses désirs et parce qu'il la veut. Là, Adolphe, il est dans une petite société de province, dans une petite ville d'Allemagne, il n'a rien à faire, il s'ennuie, la conversation des maris est aussi plate que celle des femmes, et surtout, vous l'aurez noté dès le début, la part du désir mimétique est fondamentale. Il a un ami qui lui montre que, comme c'est bien d'être amoureux, comme c'est bien de conquérir. Il a absolument pas envie de conquérir une femme, il n'est pas tenaillé par le désir, mais il a envie du désir de son ami, c'est-à-dire il désire ce que l'autre désire. Si c'est pas du René Girard, ça, je sais pas.
C'est la phrase augustinienne. Je n'aimais pas aimer, j'aimais aimer.
Oui, c'est ça. Et donc il veut voir, il veut expérimenter, et il veut expérimenter parce que c'est typique de l'âme romantique, blasée, fatiguée. Vous avez entendu là en quelques phrases le mal du siècle. C'est le. Exactement. Il en peut plus. Enfin, il n'en peut plus de ne rien faire, à dire vrai, et de s'ennuyer. On va voir avec le journal du séducteur, c'est encore pire. Mais donc, il l'a séduit parce qu'il pense que c'est bien, vu qu'apparemment c'est nouveau, et que, bon, voilà, c'est quelque chose qui peut flatter sa vanité. Il parle d'amour propre, de vanité, etc.
Et puis il la conquiert, évidemment. Mais la chose qui diffère aussi considérablement par rapport à l'extrait précédent des liaisons dangereuses, c'est que ce Benet, il faut bien le dire, parce que c'est vraiment un bas bleu, il n'a jamais séduit vraiment, donc il ne sait pas ce que c'est que la séduction, et ce Fa, comme il se traite lui-même d'ailleurs, et il a, à juste titre, ce Fa pense que c'est comme ça qu'on a une femme. C'est-à-dire que la guerre de conquête n'est pas une guerre, il suffit de livrer une seule bataille, je vais lui parler, je vais lui faire une déclaration d'amour, elle va tomber dans mes bras, parce que de toute façon la société qui l'entoure est tellement médiocre que ça va être facile. Lui, le caractère facile de la conquête, ça ne le dérange absolument pas. Il n'est plus dans les valeurs romanesques, lui il veut faire comme son ami, il veut découvrir ce que c'est.
Et en même temps, il y a une dimension supplémentaire, quand même, qui est l'idée que la séduction c'est aussi un tourment qu'on s'inflige à soi-même.
Alors ça, c'est la deuxième chose qui est particulièrement étonnante. C'est que, comme vous l'aurez noté, alors non seulement, évidemment, il va découvrir avec son premier échec que la séduction, ce n'est pas une seule bataille, mais c'est une série de batailles et dans laquelle il faut de plus en plus s'engager.
Qui se finissent par une défaite.
Et qui finit, enfin non, il la conquiert, mais c'est catastrophique, je vais y revenir. Enfin, si vous ne l'avez pas lu, c'est dommage, parce que je vais vous dire la fin, mais en même temps, vous la présentez, enfin peut-être pas tout à fait. Mais bref, donc il découvre que la séduction, ben, ce n'est pas une bataille, mais c'est une série de batailles, dans laquelle il faut s'investir de plus en plus, c'est-à-dire dans laquelle il faut, au départ, mimer la passion, mais comme chacun sait, plus vous mimez la passion, plus vous la ressentez. Bien évidemment. C'est comme ça vaut d'ailleurs pour l'amour comme pour la religion. Hein, c'est le agenouillez-vous de Pascal. À force de faire des dévotions, vous allez finir par croire. Et bien, c'est exactement la même chose en réalité. Mimer la passion, et la lettre en l'occurrence le montre, ce qui se passe dans la lettre, c'est je finis par m'échauffer tellement avec ce que j'écris que je finis par ressentir ce que je suis en train d'écrire. C'est quand même fabuleux. C'est qu'en réalité, il tombe amoureux, effectivement, en jouant l'amour. Sauf qu'on retrouve cette espèce d'ambivalence qu'on avait vue auparavant, une ambivalence où on ne sait pas jusqu'où va la sincérité et jusqu'où va l'hypocrisie. Et ça, c'est la séduction parfaite. C'est-à-dire que lui-même, c'est indécidable.
Et ce qui change quand même, ce qui est plus visible avec Adolphe, c'est que la violence n'est pas une séduction. C'est que la séduction n'est pas seulement une violence à l'encontre de l'autre, mais que c'est aussi une violence à l'encontre de soi-même.
Ben, c'est à l'encontre de soi-même, d'abord parce que ça produit des conséquences catastrophiques. Bon, il faut en venir justement à l'issue fatale de ce roman, ou plus précisément, le roman, c'est ça qui a fait la génialité, enfin à mon sens, le roman continue là où tous les autres romans se terminent. C'est-à-dire que l'intérêt de Benjamin Constant, il ne porte pas sur la conquête et le succès de la conquête, mais sur ce qui vient après. C'est-à-dire, et là aussi, c'est terriblement romantique. C'est-à-dire que, bah, après la conquête, on s'ennuie et on retombe dans l'ennui. Et c'est ça qui est horrible. Et tout le roman est fondé là-dessus, et c'est d'une cruauté épouvantable, parce qu'après, il ne sait plus comment s'en dépêtrer de cette Eleanor qui l'a séduite, qui, elle, évidemment la pauvre, s'est finalement livrée à lui corps et âme, surtout âme. Enfin, oui, corps, forcément, mais... Enfin, forcément, non. Mais surtout son âme, qui, elle, est dans une passion amoureuse totale, définitive, et d'une certaine manière, d'une incroyable noblesse. Elle sacrifie tout. Elle sacrifie tout pour lui, sa réputation, son mariage, sa société, etc. etc. Et lui, évidemment, ce jeune bas bleu qui a toute la vie devant lui, évidemment, se dit, mais je ne vais pas m'encombrer. Plus tard, ça donnera une vieille maîtresse de Barbet de Révy, abominable aussi. Mais je ne vais pas m'encombrer de cette personne dont il est aussi amoureux. C'est horrible. C'est-à-dire, il est à la fois amoureux, mais fatigué. Il a des ambitions. Sa vanité est satisfaite, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, de ce point de vue-là, mais sa vanité va se porter sur d'autres désirs. La carrière, par exemple. Et surtout, il va être l'objet, c'est pitoyable, il va être l'objet de remontrances perpétuelles de la part de son père, qui lui dit, mais bon, on cesse de fréquenter cette femme, ça fait vraiment très mauvais genre, et t'es en train de briser ta belle carrière, la carrière qui s'offre devant lui. Et toute la deuxième partie du roman, et franchement, c'est une incroyable cruauté, c'est les tergiversations de cet indécis, qui se demande, mais je l'aime.
C'est curieux, parce que c'est, tu dis que c'est un de tes romans préférés, mais le personnage...
Non, mais parce que c'est d'une incroyable...
Je me demande
C'est d'une incroyable sincérité, parce qu'il est lui-même touchant aussi dans cette faiblesse permanente du héros romantique finalement veule, un peu bené, lâche. Non, mais et en même temps amoureux.
Ça ne va pas vous dissuader de lire le roman.
Non, mais il est jeune, il est amoureux, et il est partagé finalement, ça pourrait être un Dylan Cornélien, sauf que c'est juste un drame bourgeois, et il est partagé entre, c'est vrai, l'amour qu'il porte à cette femme, et aussi la reconnaissance, c'est horrible la reconnaissance qu'il lui doit, parce qu'elle a tout sacrifié pour lui, et que quand même, il n'est pas aussi cynique que Valmont, il ne va pas l'abandonner comme ça sur le bord de la route et continuer. Il est un peu embêté, il a un peu de conscience morale quand même, et puis il est un peu amoureux toujours. Et l'ambition, et surtout les remontrances de son père, à qui il va finir par céder, évidemment, et il finira par la sacrifier. Elle en mourra.
Donc, peut-être parce que les textes sont très longs à lire maintenant, et que dans le fond, on va en venir à la troisième partie, peut-être la plus philosophique de cet entretien. Ce qui caractérise Adolphe de Benjamin Constant, c'est qu'on y voit vraiment l'ego du séducteur, beaucoup plus encore que dans les lettres de Chandallot de Laclos. Mais cet ego du séducteur, il y a un philosophe qui lui a consacré non seulement un portrait, mais notamment une analyse absolument magnifique, mais qui l'a érigé même en catégorie existentielle. Et donc c'est autour de cette... de la séduction et du séducteur comme catégorie existentielle que va porter la troisième partie de notre entretien. Et pour cela, donc ce philosophe, vous l'aurez deviné, c'est Kierkegaard. Et pour cela, nous allons lire d'abord, alors Stéphane, c'est vraiment le morceau de bravoure, parce que ça, c'est difficile. Je sais qu'on t'a demandé quelque chose de pas facile. On va lire je demande un peu de patience, larges extraits. C'est Vincent qui l'a voulu...
ça fait envie, hein. C'est très dur, c'est long, c'est philosophique.
J'ai beaucoup de mal à le canaliser, beaucoup de mal à lui refuser quoi que ce soit. Parce que c'est un ami très proche. Donc Stéphane, les deux extraits, s'il te plaît, le journal d'un séducteur, et après Vincent, c'est à toi.
Alors, premier extrait. Des fiançailles pures et simples seraient de tous les moyens les meilleurs, les plus à propos. Pour elle, ce sera peut-être d'autant plus impossible de croire ses propres oreilles lorsqu'elle m'entendra faire un aveu d'amour prosaïque et la demander en mariage. Encore moins que si elle écoutait ma chaude éloquence, buvait ma boisson enivrante et empoisonnée ou entendait le battement de son cœur à la pensée d'un enlèvement. Quant aux fiançailles, c'est le diable qui y est toujours en elle de l'éthique, ce qui est aussi ennuyeux quand il s'agit de la science que de la vie. Quelle différence! Sous le ciel de l'esthétique, tout est léger, beau, fugitif. Mais lorsque l'éthique s'en mêle, tout devient dur, anguleux, infiniment assommant. Des fiançailles, cependant, n'ont pas au sens strict la réalité éthique d'un mariage. Elles ne doivent leur validité qu'ex consensu gentium. Cet équivoque-là peut m'être très utile. Il y a juste assez d'éthique là-dedans pour que Cordélia, le moment venu, ait l'impression de dépasser les limites de l'ordinaire et, en outre, cette éthique n'est pas assez grave pour que j'aie à craindre un choc plus inquiétant. J'ai toujours eu quelque respect pour l'éthique. Je n'ai jamais fait de promesse de mariage à une jeune fille, pas même par incurie. Si j'ai l'air d'en faire une cette fois-ci, il faut se rappeler qu'il ne s'agit que d'une conduite feinte. Je ferai bien en sorte que ce soit elle-même qui brise l'engagement. Ma fierté chevaleresque méprise les promesses. Je méprise un juge lorsqu'il arrache l'aveu d'un délinquant par la promesse de la liberté. Un tel juge renonce à sa force et à son talent. Dans ma pratique s'ajoute encore le fait que je ne désire rien qui, au sens le plus strict, ne soit pas librement donné. Que les piètres séducteurs se servent de tels moyens. Par surcroît, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Celui qui ne sait pas surconvenir une jeune fille jusqu'à ce qu'elle perde tout de vue, celui qui ne sait pas, au fur et à mesure de sa volonté, faire croire à une jeune fille que c'est elle qui prend toutes les initiatives, il est et il restera un maladroit. Je ne lui envierai pas sa jouissance. Un tel homme est et restera un maladroit, un séducteur. Terme qu'on ne peut pas du tout m'appliquer. Je suis un esthéticien, un érotique, qui a saisi la nature de l'amour, son essence, qui croit à l'amour et le connaît à fond, et qui me réserve seulement l'opinion personnelle qu'une aventure galante ne dure que 6 mois au plus, et que tout est fini lorsqu'on a joui des dernières faveurs. Je sais tout cela, mais je sais en outre que la suprême jouissance imaginable est d'être aimé, d'être aimé au-dessus de tout. S'introduire comme un rêve dans l'esprit d'une jeune fille est un art. En sortir est un chef-d'œuvre.
C'est magnifique.
Deuxième extrait. Dans ma vie, j'ai déjà fait bien des déclarations d'amour, et pourtant, toute mon expérience ne m'est d'aucune aide ici. Car cette déclaration doit être faite d'une manière toute particulière. Ce que je dois surtout inculquer dans mon esprit est qu'il ne s'agit que d'une feinte. J'ai fait pas mal d'exercices de pas pour trouver la meilleure façon de me présenter. Il serait imprudent de mettre trop d'érotisme dans ma démarche, car cela risquerait d'anticiper sur ce qui doit suivre plus tard et se développer graduellement. Y mettre trop de gravité serait dangereux, un tel moment a tant d'importance pour une jeune fille que toute son âme peut s'y fixer, comme celle d'un mourant dans sa dernière volonté. Rendre la démarche cordiale, ou d'un bas comique, jurerait avec le masque adopté jusqu'ici par moi, et avec le nouveau aussi que j'ai l'intention de prendre et de montrer. La rendre spirituelle et ironique serait trop risqué. Si l'essentiel pour moi, comme pour les gens en général, dans une telle occasion, était de faire sortir le petit oui, cela irait tout de go. Il est vrai que cela est important, mais non pas d'une importance absolue, car bien que j'ai jeté les yeux sur cette fille, une fois pour toutes, bien que je lui ai voué beaucoup d'attention, oui, tout mon intérêt. Il y a pourtant des conditions qui ne me permettraient pas d'accepter son oui. Je ne tiens pas du tout à la posséder au sens grossier. Ce qui m'importe est de jouir d'elle au sens artistique. C'est pourquoi il faut mettre autant d'art que possible dans le commencement. Celui-ci doit avoir une forme aussi vague que possible et ouvrir la porte à toutes sortes de choses. Elle m'entend mal si elle voit tout de suite en moi un trompeur, car je n'en suis pas un au sens vulgaire. Mais si elle me prend pour un amant fidèle, elle s'entend mal aussi à mon égard. Ce qui importe est qu'à cet épisode, son âme reste aussi peu déterminée que possible. À un tel moment, l'âme d'une jeune fille est prophétique comme celle d'un mourant. C'est ce qu'il faut empêcher. Ma charmante Cordelia, je te frustre de quelque chose de beau, mais il n'y a rien à faire et je te donnerai toutes les compensations en mon pouvoir. Tout cet épisode doit rester aussi insignifiant que possible pour qu'après m'avoir donné son oui, elle ne soit capable en aucune manière de rendre compte de ce qui peut se cacher dans nos rapports. C'est justement cette possibilité infinie qui constitue ce qui est intéressant. Si elle était capable de prédire quelque chose, j'aurais fait fausse route et nos rapports perdraient leur sens. Il n'est pas imaginable qu'elle me dise oui parce qu'elle m'aime, car elle ne m'aime pas du tout. Le mieux serait que je puisse transformer les fiançailles de sorte qu'elles deviennent un événement au lieu d'être un acte, qu'elles deviennent quelque chose qui lui arrive au lieu d'être quelque chose qu'elle fait et dont elle doit dire « Dieu sait comment, au fond, c'est arrivé ».
Merci beaucoup Stéphane pour ces deux extraits extrêmement saisissants du journal.
C'était pas plombant.
Non, pas du tout.
Le texte est magnifique.
Le texte est magnifique et le texte est une très grande force. Donc, et surtout, on voit bien apparaître comme ça cette pensée des stades de l'existence. Donc la figure du séducteur, vous l'aurez compris, illustre pour Kierkegaard le premier stade de l'existence, qui est le stade esthétique. Et peut-être pour commencer, tu pourrais, peut-être puisque personne ne connaît ça aussi bien que toi, nous rappeler, dans le fond, cette pensée qui connaît des trois stades de l'existence, nous dire comment, du coup, elle conduit à faire de la figure du séducteur une catégorie existentielle.
Oui, c'est surtout ça qui est important. C'est que, comme vous l'aurez remarqué, la prose de Kierkegaard est une prose purement littéraire ici. Enfin, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens de le dire comme ça, mais en tout cas, ce n'est pas un essai philosophique, hein, vous l'aurez constaté. Mais ce qui change, c'est que c'est effectivement une façon de ressaisir la figure du séducteur par la philosophie. C'est-à-dire que la figure du séducteur devient non pas simplement un personnage, de roman, et il y aurait beaucoup à dire sur la forme du journal dans lequel il est pris, mais bon, peu importe, mais c'est le fait que cette figure devient, acquiert une statut proprement philosophique, c'est-à-dire qu'elle signifie ou elle manifeste un certain état de l'existence, voilà, un certain état du sujet existant, par lequel probablement nous sommes tous passés, enfin peut-être, je ne sais rien, peu importe, par lequel en tout cas nous pourrions tous passer, cette espèce d'état esthétique de l'existence sur lequel je vais revenir immédiatement, et une espèce d'état de l'existence qui correspond aussi à un certain état, puisque toute la philosophie de Kierkegaard est orientée par ça, un certain état de l'amour. Bon. Et vous l'aurez entendu d'ailleurs à l'audition de ces extraits, ce qui guide le séducteur, ici, c'est évidemment pas, ça j'espère qu'on va y revenir, c'est évidemment pas la conquête elle-même, hein, c'est-à-dire c'est évidemment pas la possession, il le refuse comme une vulgarité qui ne le concerne pas, c'est la naissance de l'amour. C'est-à-dire tout ce qui l'occupe, en réalité, et sincèrement, hein, c'est pas du tout une conduite cynique, hypocrite, etc. Ce qui l'intéresse sincèrement, c'est l'amour lui-même. C'est être aimé, bien sûr, mais c'est aussi faire éclore, et c'est pour ça qu'il a un caractère socratique, c'est faire éclore l'amour chez, je sais pas si on peut l'appeler sa victime, mais chez l'objet, dans l'objet aimé. C'est de lui faire connaître l'amour. En réalité, c'est un jeu, mais c'est un jeu extrêmement sérieux parce qu'il s'agit en fait d'amener l'autre, non pas de la réduire, non pas d'en faire un objet inanimé qu'on possède, ça pourrait être Don Juan, mais au contraire d'élever contre elle-même ou malgré elle, de l'élever à un état supérieur, en tout cas de l'élever à une connaissance qu'on peut estimer être une connaissance suprême, celle de l'amour. Autrement dit, l'objet, le dessein, le but du séducteur, c'est de faire naître cet amour, justement. Ce qui est complètement différent de ce qu'on a vu auparavant. C'est-à-dire pas simplement de se faire aimer, mais de lui faire connaître ce que c'est que l'amour. Ce qui implique une stratégie, si je puis dire, complètement différente et extrêmement philosophique. Bon, bref, je referme c'était pas une parenthèse, en fait. Bon, bref. Deuxième chose, donc c'est un stade de l'existence où supposons que la figure du séducteur nous dise quelque chose de l'existence elle-même, ou d'un niveau, d'un état de l'existence par lequel nous pourrions passer, ou dans lequel nous pouvons être. C'est ce stade, fameux stade esthétique. Alors je rappelle simplement dans la philosophie de Kierkegaard, on retient souvent, trop souvent à mon avis, une tripartition entre trois stades de l'existence: esthétique, éthique, religieux. Vous avez entendu le terme d'éthique qui correspond à un autre état de l'amour, parce que c'est un état de l'amour, le mariage. Bon, bref, on va revenir. Bref, ces trois stades correspondent à trois états de l'existence, pour le dire vraiment très très vite. Trois états de l'amour aussi, qui se terminent dans l'amour de Dieu. L'esthétique, c'est la figure du séducteur, entre autres, cette figure-là qu'il incarne, est une figure, j'allais dire, du décollement. C'est la figure romantique par excellence. C'est l'amoureux d'Adolphe, en l'occurrence. C'est un état d'inconsistance, ce qu'on pourrait appeler d'inconsistance du sujet, d'inconsistance de l'existence, de flottement par rapport à la réalité, de refus de s'engager dans la réalité,
de dispersion,
d'affolement devant l'infinité des possibles, et donc de refus systématique de s'engager dans la réalité, parce que la réalité impose de sacrifier un certain nombre de possibles. Et ça, c'est précisément ce que ne veut pas le sujet dans le stade esthétique. Il préfère jouir de cette inconsistance. C'est pour ça que ça correspond à un certain état de l'amour, c'est-à-dire celui du désir qu'on ne fait, à dire vrai, qu'anticiper, sans jamais... Comment dire ? Le vivre, si, c'est une manière de le vivre, mais de le vivre en rêve, mais sans jamais, finalement, le consommer. Parce que, bien évidemment, et c'est pour ça que c'est la séduction qui est ici extrêmement importante, puisque, à partir du moment où ce désir est consommé, c'est pas simplement la satiété ou l'amertume de la satiété qu'il produit, comme dans Adolphe de Benjamin Constant. C'est aussi le fait que toute sa teneur poétique, cette espèce d'inconsistante rêverie qu'il caractérise, d'un seul coup, tombe vraiment avec une pesanteur effroyable dans le réel. Et ce qu'on déteste dans le stade esthétique, à dire vrai par-dessus tout, c'est le réel, justement. Ça s'appelle, ou du moins ça s'appelle l'éthique. Et l'éthique...
L'extériorité.
C'est l'engagement, dans tous les sens du terme, c'est l'engagement dans le réel. Ça veut dire, dans cette vie grise et quotidienne qui est la nôtre, dans laquelle, effectivement, un certain nombre de nos rêveries sont sacrifiées, un certain nombre c'est-à-dire la plus grande partie des possibilités qui s'ouvraient à nous en rêve sont drastiquement réduites par ce que nous faisons et ce que nous devons faire.
La conformité aux lois, aux institutions.
La conformité aux lois, aux mœurs, aux institutions. Nous ne sommes plus cette espèce de héros romantique qui peut être tout à la fois. Nous sommes tout simplement un prof de philosophie qui gagne son argent en faisant des cours et qui revient le soir regarder la télé. Enfin, quand il en a. Voilà. C'est terrible, mais c'est la vraie vie. C'est la vraie vie.
C'est comme ça, toi ?
Non, en fait, je n'ai pas la télé. C'est la vraie vie. Et cette vraie vie, c'est le stade éthique, justement. Et si vous reportez ça au niveau des différentes phases de l'amour, bah vous passez de l'éternelle séduction du stade esthétique, accumulé. Bon, je vais revenir là-dessus parce qu'il y a une différence entre le séducteur et Don Juan de ce point de vue-là.
On va y venir jusqu'à la fin. Ce sera le...
Ah bon,
on y
d'accord.
Vient tout de suite, oui.
Bon, on y vient tout de suite ?
On va y venir tout de suite quand bon, tu veux.
Bref, c'est le passage entre l'éternelle séduction... qui est toujours évidemment insatisfaite, parce que le réel est toujours insatisfaisant, il faut toujours rebondir, repartir, etc. C'est le passage entre cette éternelle séduction et le mariage. C'est alors, bien sûr, le mariage bourgeois, et c'est pour ça que le moment des fiançailles est si important dans ce texte-là. Parce que le moment des fiançailles, même si c'est une arme de séduction qui est utilisée ici par Johannes le séducteur, même si c'est une arme, ce moment des fiançailles est le moment du basculement, évidemment. C'est le moment où vous allez finalement vous engager pour un seul amour. C'est-à-dire, et vous allez rentrer dans la vie sous la loi, ou dans la vie, dans les mœurs, dans la vocation, c'est-à-dire reprendre toujours le même amour, vous allez devenir un homme marié. Exactement ce qui fait ricaner la Merteuil dans les liaisons dangereuses. Bon. Sur le stade religieux, troisième stade, et vous aurez compris à peu près ce que ça peut signifier, qui est un stade de l'engagement religieux au-delà même de l'éthique. Mais je le laisse de côté, bien que en réalité, ils doivent être constamment gardés en mémoire quand on lit ce texte-là. Pour en revenir sur... Non, tu voulais poser...
Est-ce que tu veux tout de suite nous parler de Don Juan, parce qu'on avait...
Alors,
ou
oui.
Est-ce que, et on garde pour toute la fin le court détour que tu voulais faire par Platon et le banquet.
Oui, d'accord.
Alors, vas-y, parle-nous, parce qu'évidemment, comme vous l'avez compris, puisqu'on avait dit qu'on suivait la programmation de l'Odéon, la motivation de cette réflexion sur la séduction, ça a été le Don Juan. Mais en réalité, c'est une étrange motivation... Puisque finalement, Don Juan n'est peut-être pas l'incarnation du séducteur.
Alors, c'est pas du tout le séducteur.
Voilà.
C'est pour ça qu'à un moment donné, dans le texte qu'on a entendu, Johannes, le séducteur, dit « Je ne suis surtout pas un séducteur. Je ne suis pas un séducteur, je suis un esthéticien. » C'est-à-dire, je suis l'homme du stade esthétique. Ça veut dire tout simplement qu'il prend en mauvaise part le terme de séducteur, j'allais dire au sens... originel et 18e du terme, c'est-à-dire celui qui séduit les femmes.
Qu'est-ce qui distingue la jouissance
alors,
pour Don Juan et la jouissance pour le séducteur?
C'est très simple. Non, c'est pas simple du tout. Mais pour comprendre le truc, il faut replacer ce texte de Kierkegaard ou ce roman ou ce journal du séducteur qui a rendu son auteur extrêmement célèbre à l'époque. En réalité. Pardon ?
Il a fait scandale.
Il a fait scandale, mais surtout, il lui a attiré un public considérable. Bon. C'est un texte, en réalité, c'est un texte vraiment extraordinaire. Alors, évidemment, vous n'y trouverez pas de recette de séduction, je vous le dis tout de suite, mais de toute façon, s'il y avait des recettes à la séduction, ce ne serait plus la séduction. Mais, en tout cas, ce journal, qui est une pièce parfaitement autonome, est intégré dans un traité, dans un livre beaucoup plus grand, qui s'appelle « Ou bien, qui est le premier grand livre de Kierkegaard, livré sous pseudonyme, et il constitue une petite partie de ce grand livre. Bon. Et il constitue non seulement une petite partie de ce grand livre, mais une petite partie de la première partie de ce grand livre. Et ce grand livre, ou bien, est divisé en deux parties qu'on peut considérer comme représentant le stade esthétique d'un côté et le stade éthique de l'autre. Je laisse de côté le stade éthique, le mariage, tout ça. Bref, je reviens à ce stade esthétique. Dans le stade esthétique, tel que Kierkegaard le présente dans ce livre, il est composé de multiples textes différents, des aphorismes, tout à la manière romantique, hein, bien sûr. Des aphorismes, des propos de la critique littéraire, un journal romanesque notamment, et un magnifique essai, il faut bien le dire, qui ouvre le livre sur le Don Giovanni de Mozart. Bon.
Ouais.
Et la figure de Don Juan est une figure extrêmement importante, enfin, à dire vrai, pas de Don Juan, de Don Giovanni, et ça a toute son importance, pas la figure théâtrale, pas la figure de Molière, qui pour Kierkegaard est un très mauvais Don Juan. C'est un très mauvais Don Juan, parce que c'est un, je ne devrais pas le dire dans l'Odéon, mais, désolé. Mais,
t'as pour... rien dit sur la mise en scène, tu parles juste...
Non, la mise en scène est excellente, mais la pièce est très mauvaise, pour Kierkegaard, mais Kierkegaard n'avait aucun goût en matière littéraire, oubliez-le, et d'un point de vue philosophique, c'est parfaitement justifié, parce que le Don Juan de Molière, pour Kierkegaard, c'est un Don Juan beaucoup trop intellectuel. Ça n'est pas vraiment Don Juan. L'essence de Don Juan, l'essence philosophique de Don Juan, elle n'est pas dans le théâtre, elle est dans la musique, et plus précisément, elle est dans l'opéra. Bon. Don Juan, c'est un personnage musical, parce que Don Juan, c'est l'incarnation pure de la force du désir. Pure. C'est pour ça qu'on commence le stade esthétique par là. On commence, ce qui est le début de l'amour, c'est-à-dire le désir comme pure passion, c'est-à-dire comme pure énergie, comme pur moteur. Et ça, c'est Don Juan. Don Juan, ça n'est pas un séducteur, ou c'est un séducteur en mauvaise pain, ça n'est pas un séducteur, en tout cas, tel que le pense Kierkegaard, parce que tout simplement, il n'a pas assez de réflexion, ou pas assez de réflexivité, c'est pas un abruti, il ne faut pas exagérer, mais il n'a pas assez de réflexion ou de réflexivité sur l'objet de son désir. Il est pure force, et c'est pour ça qu'il appartient à la musique et pas à la littérature. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que c'est un personnage d'opéra et que ça n'est pas un bon personnage de littérature. C'est pour ça que dans la pièce de Molière, il pérore au lieu de... au lieu de conquérir, justement, il pérore contre Dieu, contre le ciel, contre les prêtres, contre les philosophes. Il parle. Et si vous regardez quand même la pièce de Molière, ce qui est surtout caractéristique, enfin, l'opéra de Mozart aussi, ce qui est surtout caractéristique, c'est qu'il court d'échec en échec, quand même. Il faut bien le reconnaître. Mais dans Don Giovanni, dans cet opéra qui a vraiment hanté toute la pensée de Kierkegaard, il retournait l'écouter à l'opéra tous les ans. Il en était absolument fou, cet opéra. Je vous conseille de lire ces pages, elles sont vraiment très très belles. Mais le Don Giovanni de Mozart, pour Kierkegaard, c'est tout le début du stade esthétique, c'est-à-dire la pure sensualité du désir et de l'amour. Ce que fait Don Giovanni, c'est consommer. Sous une forme qui intéresse beaucoup Kierkegaard, parfaitement désespérée. C'est-à-dire qu'il incarne le stade esthétique au sens où il n'a jamais entre les mains que l'inconsistance du désir satisfait. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il se relance tout le temps. Des femmes, dit Kierkegaard, dit c'est la femme abstraite, en réalité. Il veut la femme, c'est-à-dire toutes les femmes. Mais évidemment, c'est très difficile, comme vous l'aurez remarqué, de les avoir toutes. Mais c'est pour ça que son mouvement est parfaitement indéfini, il n'a aucune consistance, il est exactement comme le temps qui est fait d'instants, et parce que le stade esthétique est une certaine consistance du temps, c'est un temps totalement inconsistant, pulvérisé d'instants, les instants dispersés, les instants se chassent les uns les autres, comme les femmes se chassent les unes les autres, et tout est reparti, et il ne progresse absolument pas, il n'y a aucun devenir de Don Juan, il y aura simplement la mort qui mettra un terme arbitraire à ce parcours sans aucun sens, qui est le début du stade esthétique.
Bon. Oui, un éternel recommencement.
Un éternel recommencement, un épuisement, une inconsistance totale. À l'autre bout du spectre esthétique, vous avez la figure de Johannes le séducteur, qui est d'une certaine manière la continuation logique, mais aussi l'antipode de Don Juan. L'antipode parce que lui, il ne lui faut pas toutes les femmes, il lui en faut une. Et cette réduction... Une seule singulière, celle-là, Cordélia, qu'il a choisie. Une seule dont il faut bien avouer qu'il n'est pas absolument chaud, si je puis dire, pardon, pour la consommer. C'est-à-dire que la conquête lui importe, comme vous l'aurez compris, vraiment très très peu. Ce qui lui importe beaucoup plus, par exemple, c'est de s'examiner lui-même en train de conquérir. Alors ça, il adore ça. C'est pour ça que le journal du séducteur, c'est un journal, justement. Ce n'est pas un opéra. C'est un journal. La forme du journal, c'est le type qui réfléchit sur ce qu'il fait. Et qui réfléchit tellement sur ce qu'il fait qu'il ne fait rien, justement. Et ça, c'est l'âme romantique. Ça, c'est l'âme parfaitement paralysée devant le réel. Le journal du séducteur, c'est un texte absolument admirable. Vraiment, difficile d'accès, mais vraiment admirable. mais dans lequel il ne se passe quasiment, rien. Mais vraiment rien, ou plus précisément, la progression est infime. C'est exactement le contraire de Don Juan qui est tout de suite en avant et qui saisit les femmes à la hussarde, si je puis dire, pour l'expression. Le séducteur, Johannes, c'est exactement le contraire, c'est celui qui s'examine en train de désirer et en train surtout de suggérer le désir. Jamais il ne va rentrer, ou alors vraiment, exactement comme un frileux dans une eau glacée, il ne va rentrer dans le réel. Ça ne l'intéresse pas tellement. Ce qui l'intéresse, c'est l'intéressant, justement. C'est-à-dire cette espèce, ce que peut représenter le réel depuis un point de vue, pas le point de vue de Sirius, mais depuis le point de vue du dandy, dégagé, désengagé, lointain et à la fois séducteur, parce que le dandysme, alors, c'est incroyablement séducteur.
Et alors, pour compléter ce portrait, est-ce qu'il y a de l'angoisse dans la séduction?
Alors, vous l'aurez compris, c'est...
Où est l'angoisse? Est-ce qu'il y a de l'angoisse chez Don Juan? Est-ce qu'il y a de l'angoisse chez Johannes?
Alors, bien sûr, vous aurez compris que l'un des intérêts pour Kierkegaard, l'un des intérêts philosophiques de ces figures et de ce rapprochement entre figures, c'est évidemment de susciter quelque chose comme une réflexion éthique aussi sur la condition de l'existence, et donc de déceler quelque chose qui rend le stade esthétique finalement insupportable. Hein, parce que le but, c'est quand même de vous dire que vous n'avez pas totalement intérêt à rester dans le stade. C'est merveilleux.
Qu'est-ce qui précipite dans le mariage?
Ben voilà. Alors, petite parenthèse, comme vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, maintenant c'est fait, Kierkegaard lui-même a rompu ses fiançailles. Bon. Ça complexifie un petit peu l'écriture du journal du séducteur, ou pas tellement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a écrit le journal du séducteur après avoir rompu ses fiançailles avec celle qui aura été l'amour, le seul et unique amour de sa vie, après laquelle il a, d'une certaine manière, couru après avoir rompu ses fiançailles, mais ça c'est Kierkegaard, c'est normal. Et il écrit le journal du séducteur. C'est une écriture complètement cryptée, hein, comme un certain nombre d'autres livres qui accompagnent cette production. Il écrit en réalité à la femme qu'il a effroyablement abandonnée, ce qui a créé un scandale à Copenhague. C'est quand même pas mondial, mais c'est quand même très très important. Et il écrit ce journal du séducteur, notamment pour se déguiser lui-même en séducteur et pour... Essayez, rappelez-vous cette phrase admirable, entrer dans l'esprit d'une femme est un art, en sortir est un chef-d'œuvre. C'est exactement ce qu'a fait Kierkegaard, ou ce qu'il a essayé de faire en écrivant ça. C'est-à-dire le journal du séducteur, c'est une façon pour Kierkegaard d'essayer de sortir en chef-d'œuvre, de sortir de l'esprit de sa fiancée abandonnée, pour que tout simplement elle puisse survivre à la rupture des fiançailles. Bon. Kierkegaard lui-même a rompu ses fiançailles, c'est-à-dire a été incapable de, comme on dit vulgairement, de sauter le pas, c'est-à-dire de passer du stade esthétique au stade éthique, de se marier, tout simplement, pour de multiples raisons, dans le détail desquelles, malheureusement, je ne peux pas rentrer.
Non, ça dépend du troisième stade.
Ça dépend du stade, du stade religieux. Cela dit, on peut passer directement, je vous rassure, on peut passer directement du stade esthétique au stade religieux, il n'y a même pas besoin de se marier. Et même, d'une certaine manière, le mariage rend plus difficile le passage au stade religieux, quoi qu'on en pense. Mais peu importe, l'essentiel, c'est ici que les fiançailles qui sont, dont le narrateur ici dit bien qu'elles sont de l'esthétique et de l'éthique en même temps. Ah, c'est bien le diable qui entre un peu d'éthique, ça veut dire un peu de contrat, un peu d'objectivité, un peu de cette vie bourgeoise qui l'exècre comme tous les dandys. Bon. Mais cette espèce de conjugaison étrange des fiançailles... est destiné à vous montrer que le séducteur se situe finalement vraiment à un point d'extrême limite du stade esthétique. C'est-à-dire le moment où tout s'épuise. Cette quête effrénée de Don Juan est en train de s'immobiliser complètement dans l'espèce d'hyper-réflexivité du héros romantique, complètement paralysé par l'infinité des possibles et surtout par, j'allais dire, l'hypertrophie de sa réflexion. Don Juan, c'est pas du tout un homme réfléchi. Vous l'aurez... C'est un homme sensuel. C'est la sensualité. L'autre bout du stade esthétique, et c'est pour ça que c'est l'angoisse, l'autre bout du stade esthétique, c'est précisément le moment où cette force du désir s'est, d'une certaine manière, a complètement involué, s'est complètement épuisé et a cédé la place à une hypertrophie de la réflexivité, qui est aussi la réflexivité philosophique, qui a dévoré la vie, tout simplement dévoré la vie. Et surtout, qui...
Non, c'est pour qu'on ait besoin de parler de Platon après, mais continue.
Et surtout, qui laisse voir, de toute manière, le vide au centre, le vide au centre de ce stade, le vide au centre de toutes ces existences esthétiques. Il n'y a rien. Tout est inconsistant. Et c'est exactement ce qu'il suggère, d'ailleurs, dans la stratégie dont vous avez vu un extrait, dont vous avez entendu un extrait tout à l'heure, c'est qu'à la fin, mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Et si vous lisez le journal du séducteur, vous verrez, c'est très, très intriguant, parce que ça se termine, bon, vous aurez compris que le grand chef-d'œuvre du séducteur, c'est pas tellement de la séduire en lui proposant le mariage, c'est répugnant. Ça, c'est digne de Don Juan. C'est Don Juan avec Mathurine dans le Don Juan de Molière, par exemple, ou avec Zerline dans le Don Giovanni de Mozart. Proposer le mariage, Berck, bon, c'est trop facile. En plus, les jeunes oies blanches, elles tombent dans le panneau, c'est trop facile. Mais c'est pas tellement la valeur héroïque ou chevaleresque, comme c'était chez Valmont, ou non, c'est une proie trop facile, ou c'est des expédients trop vulgaires. C'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, encore une fois, c'est de susciter l'amour, bien sûr. Mais ce qui est très intéressant, de ce point de vue-là, c'est que il va l'amener... Évidemment, s'il parle de fiançailles, c'est pas pour l'épouser et pour obtenir... ce qu'il cherche, c'est pour créer un choc chez sa victime. C'est pour créer un trouble, c'est pour l'éveiller à l'amour. Et le but, c'est que ce soit elle qui rompe les fiançailles. Le but ultime de la séduction, c'est que ce soit elle qu'elle ait l'impression d'avoir finalement toujours voulu ce qu'elle a voulu, d'avoir elle-même fait ce qu'elle a fait, alors que c'est lui qui l'a poussée à faire. Vous comprenez? Et le principe, c'est qu'à la fin... elle ne sache pas ce qui lui est arrivé. Elle ne sache pas exactement comme ces figures mythologiques qui sont visitées par des dieux et qui, au réveil le matin, se dit « Tiens, c'est bizarre, il m'est arrivé quelque chose pendant la nuit. » Mais quoi? Rien. Tout est une ombre. Tout est purement fantomatique, spectral. Elle a été tout simplement initiée à l'amour par quelqu'un qui s'est retiré et qu'elle a congédié, finalement, sans vraiment comprendre ce qui lui était arrivé, sans vraiment comprendre ce qui se passe en elle, mais elle a éclos et lui se retire.
Et alors, où est la violence?
Mais la violence, il y en a, enfin plus précisément, la violence, elle s'exerce parce qu'elle est manipulée, bien sûr, mais elle s'exerce exactement comme s'exerce toute pédagogie, et c'est la raison pour laquelle je voulais qu'on entende un tout petit peu un texte auquel, en réalité, fait directement référence le journal du séducteur, c'est-à-dire la figure socratique. Le séducteur, et c'est pour ça que ça intéresse un philosophe comme Kierkegaard, le séducteur, c'est le calque, dans le stade esthétique, de la figure de Socrate, c'est-à-dire qui procède exactement à la même chose. Comme vous le savez, la pratique de Socrate, c'est la maïotique, c'est-à-dire l'art d'accoucher. L'art d'accoucher. Et le principe, c'est que comme art d'accoucher... c'est pas celui qui fait accoucher, enfin rarement, en tout cas, qui est le père, si je puis dire, de l'enfant dont on accouche, bien sûr. C'est pas lui qui fabrique ce dont on accouche, si je puis dire. C'est par elle-même que la personne accouche. Autrement dit, le principe, la vérité est en vous, mais vous ne le savez pas. L'amour est en vous, mais vous ne le savez pas, vous avez besoin de quelqu'un qui vous le fasse découvrir par vous-même. C'est ça la violence. Mais cette violence, elle est purement pédagogique. Et elle est purement négative, d'une certaine manière. Socrate, comme le séducteur, est simplement ce que Kierkegaard va appeler l'occasion. C'est l'occasion contingente, fugace et en même temps nécessaire, qui va vous aider à accoucher de vous-même. C'est le Dieu qui vous visite pendant la nuit, qui ne laisse quasiment aucune trace, mais au matin, vous êtes entièrement changé ou entièrement bouleversé, et c'est le but de la séduction du journal du séducteur, comme c'est le but de la séduction socratique, puisque c'est précisément ce dont parle Platon, c'est de sa séduction. Et selon Platon, c'est le ferment de la philosophie, c'est le début de la philosophie. C'est le début. C'est l'éros, c'est le début.
Tu veux dire un mot de Alcibiade, du banquet?
Oui. Alors si vous avez encore juste 5 minutes.
Oui,
mais... Non, mais tu veux le lire ou...
Alors j'étais plus sûr d'avoir retrouvé le passage exact que tu voulais lire dans le banquet.
Mais je peux le lire si tu veux.
Si tu le retrouves exactement. Parce que...
Et je vais vous lire. Voici. Alors, c'est dans le banquet. Bon. Il y a plein... on banquette. On s'échange des propos sur l'amour. Je le fais vraiment très vite. Hein. On s'échange entre gens cultivés. Dans ce rituel du banquet grec, on s'échange des propos sur l'amour. Chacun y va de son discours, etc. Il y a Socrate, et il y a Agathon, il y a Aristophane, etc. Bref. Chacun disserte sur l'amour. Et simplement, à la fin, ces grandes conversations sont interrompues par l'arrivée inopinée d'Alcibiade, dont Socrate est amoureux, qui est l'amant de Socrate, qui voudrait être l'amant de Socrate, et qui arrive dans le banquet ivre-mort, qui fait un scandale, et qui se jette sur les convives en disant « Ah ah, vous voulez parler d'amour, moi je vais vous parler d'amour, c'est-à-dire, moi je vais vous parler de la séduction de Socrate. »
Voilà, c'est juste là.
Voici, mes amis, comment je vais tenter de louer Socrate. En image. Il va peut-être croire, lui, que c'est pour mieux faire rire. Mais non, mon image cherche à le rendre vrai, pas à faire rire. Oui, pour moi. Il ressemble tout à fait à ces Silènes dans les ateliers des sculpteurs populaires en train de jouer de la syringe ou de la flûte. Si on les ouvre par le milieu, on découvre dedans les statuettes des dieux. J'ose le dire, il a lui-même quelque chose du satyre Marcias, ça veut dire qu'il est franchement laid. D'abord, Socrate, tu as un peu la même allure physiquement, tu n'en dis qu'on ne viendra pas toi-même. Que tu leur ressembles aussi pour le reste, écoute un peu. Tu es violent, n'est-ce pas? Si tu le nies, je produirai des témoins. Mais tu ne joues pas de la flûte. Si, à ta manière, et plus merveilleusement encore que Marcias. Marcias était un satyre qui prétendait jouer mieux de la flûte que qu'Apollon de la lyre, et ça lui a pas... ça lui a tiré des ennuis. Lui se sert d'instrument pour charmer les hommes avec la puissance de son souffle, comme aujourd'hui encore ceux qui jouent de sa musique, et ses mélodies, qu'elles soient exécutées par un virtuose ou par une oiseuse de flûte, ont seul le pouvoir de nous toucher le cœur. Divine, elle révèle qui a besoin des dieux et de leur mystère. Par rapport à toi, il n'y a qu'une différence. Tu te passes d'instrument. Avec la simplesse de ton langage, tu obtiens le même résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Socrate, tu es un charmeur, tu es un séducteur. Et c'est la raison pour laquelle tu me fais griller à petit feu. Alcibiade, c'était l'homme parfait à l'époque. Alcibiade, c'est le jeune, très beau, très riche, que tout le monde envie. Et il est amoureux de ce Silène difforme qu'est Socrate. Incompréhensible. Mais pourquoi? Parce que Socrate est un séducteur. Mais qu'est-ce que ça signifie, la description de ce charme ambigu qu'exerce Socrate à l'égard des gens qui l'entourent? Il y a d'autres dialogues dans lesquels on le compare à une torpille. C'est à ce point de torpille, vous vous approchez, il vous paralyse. Bon, il vous fascine et il vous paralyse et il vous pique. Socrate, c'est ça. La philosophie, c'est ça. C'est ça que ça signifie. La philosophie, c'est du désir. C'est du désir, c'est l'éros. C'est le stade érotique dont parle Kierkegaard et le séducteur ici. C'est du désir, le désir dont on imagine au départ que c'est un désir des corps, que c'est un désir de la beauté, et dont on s'aperçoit à la fin que c'est un désir du bien et de la vérité. Socrate, qui a un corps difforme, charme pour autant. Il est comme ces Silènes, c'est-à-dire extérieurement, il est très laid. Autrement dit, il vous fait comprendre progressivement, alors qu'il vous charme, alors qu'il capte votre désir, il vous fait comprendre qu'il y a autre chose que le désir du beau sensible, et qu'à l'intérieur se cache le vrai. Ce charme, cette séduction, c'est la philosophie elle-même. En tout cas, c'est comme ça que Kierkegaard s'en inspire à partir du Journal du Séducteur. C'est-à-dire que ce que vous raconte le Journal du Séducteur, ce que mime, d'une certaine manière, le Journal du Séducteur, c'est la séduction que peut exercer la connaissance véritable. Le but du séducteur, c'est de faire connaître à cette jeune Cordélia, bon, elle en paiera le prix, évidemment, mais c'est de faire connaître quelque chose de la vérité de l'amour. C'est de la faire passer d'un simple désir qu'il aurait pu initié en étant simplement un vulgaire séducteur, à la connaissance d'un état supérieur du désir qui est celui de l'amour. C'est exactement le mime du geste socratique qui ouvre la philosophie, et c'est pour ça que je voulais y faire référence.
Bien, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrête là. D'abord, merci beaucoup à Stéphane pour sa lecture des textes. Je crois qu'on peut vraiment l'applaudir et le féliciter.